Voilà, bonjour frères et sœurs, je suis très heureux ce matin d'être parmi vous. Avant que j'oublie, donc, je vous adresse les salutations de l'église de Lyon, de son équipe pastorale et de monsieur et madame Schinner. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Je tiens aussi à remercier donc le pasteur Alain Ray pour l'invitation pour la journée. Je crois que le Seigneur va nous bénir. Il a préparé cette journée spécialement pour chacun d'entre nous. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on ouvre la Bible. Alors, permettez-moi que je lève un tout petit peu le pupitre. Voilà, je n'ai pas une bonne vue alors. On fera une lecture donc dans le premier livre des Rois, chapitre 17, verset 8. Donc c'est l'histoire d'une femme qui va connaître des temps difficiles. Y a-t-il seulement quelqu'un ici ce matin qui n'a jamais connu de temps difficiles dans sa vie? Il n'y a personne, nous connaissons tous des temps difficiles, des temps de désert, des temps de famine, des temps particuliers. Et cette femme, lorsqu'on lit cette histoire, les choses avaient vraiment mal commencé. Mais heureusement qu'elles se finissent bien. Et j'ai envie de dire, avec Jésus, c'est toujours ce qui se passe. Avec le Seigneur, il y a toujours un happy end. Et j'aimerais que l'on lise son histoire, c'est au verset 8, voilà. Chapitre 17, verset 8. Un roi, chapitre 17, verset 8. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre et fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Lorsque le Seigneur parle, eh bien, c'est ce qu'il dit qui arrive toujours. Amen. Et dans ce que nous avons lu, cette femme, elle était dans une drôle de situation. Elle s'attendait véritablement à mourir. Elle n'avait d'autre issue que la mort. Pour elle, c'était quelque chose de sûr et certain. Les jours qui étaient devant elle l'amenaient certainement vers sa mort. Et on ne sait par quel miracle, eh bien, elle va rester en vie. Au lieu de la mort qu'elle attendait, eh bien, c'est la vie qui va se manifester. Elle-même, au verset 12, on l'a lu ensemble, elle-même, elle dit, « Je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai. » Et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Et nous mangerons, après quoi nous mourrons. Donc, elle avait vraiment un scénario tout écrit à l'avance. Il y avait un scénario qui était tout préparé dans sa tête. Les choses étaient très claires, très nettes. Même elles étaient séquencées. On le voit, elle dit, mais je ramasse deux morceaux de bois, puis ensuite je rentrerai chez moi, puis je préparerai cela, puis on mangera, puis ensuite, eh bien, nous mourrons. Les choses étaient très claires pour elle. La mort était quelque chose de certain pour elle. Mais voyez-vous, souvent lorsque nous les hommes, nous avons des scénarios de mort dans la tête, Dieu, lui, a un scénario de vie pour nous. Amen. Dieu, il a toujours un scénario de vie pour nous. Je ne sais pas quel scénario tu as dans la tête ce matin en venant au culte. Peut-être que tu es aussi comme cette femme, tu t'es dit, voilà, les choses vont se passer comme ça, comme ça, comme ça, un peu de façon séquentielle, jusqu'à ce que, eh bien, ça soit fini pour moi. Peut-être que tu as pensé qu'il n'y avait plus rien à faire. Peut-être qu'autour de toi, on t'a dit que c'était fini, c'était terminé. Mais encore une fois, je te le dis, quand l'homme a des scénarios de mort, Dieu, il a toujours des scénarios de vie. Dieu, il est toujours celui qui, face à nos scénarios défavorables, face à nos scénarios pessimistes, eh bien, a des scénarios meilleurs. Il les réécrit en notre faveur. C'est ce qui va se passer pour cette femme. Peut-être que tu as pris tes dispositions déjà face à peut-être la maladie. Tu t'es dit, avec tout ce que je vis, avec cette maladie qui perdure, avec tous ces séjours à l'hôpital, eh bien, voilà ce qui va se passer. Puis ensuite, je vais mourir. Peut-être que tu as pris tes dispositions, même avec, comme on le voit souvent, avec tes enfants, avec l'héritage, avec tes biens. Peut-être pour un jeune, tu t'es dit, face à l'ampleur de ton désespoir, tu t'es dit, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Puis, eh bien, je me donnerai la mort. Peut-être que tu penses à te supprimer. Peut-être que tu te dis, je vais, comme on le fait aujourd'hui, je vais écrire une lettre à mes parents, une dernière lettre. Puis ensuite, eh bien, je vais mourir. Vous savez, on a beaucoup de, comment dire, beaucoup de mise en scène aujourd'hui de la mort. On le voit d'ailleurs, il y a une scénographie de la mort. Les gens, voilà, ils écrivent leur mort comme un scénario de film. Hein, on le voit avec les jeunes, hein, sur Facebook, Periscope, avec tous ces derniers drames qu'on a pu avoir. Mais Dieu n'est pas dans ces scénarios de mort. Dieu, lui, c'est un Dieu de vie. Et lorsqu'il pense à nous, lorsqu'il a des perspectives pour chacun d'entre nous, la Bible dit qu'il a des plans, non de malheur, mais des plans de bonheur, des plans de paix pour chacun d'entre nous. Vous savez que ça peut arriver même au meilleur. La Bible dit qu'un jour, David, donc c'est dans 1 Samuel chapitre 27, David, lassé d'être poursuivi par Saül, il n'en pouvait tellement plus, il allait de caverne en caverne, il ne savait plus où aller. Et il finira par dire cette parole, il est marqué au verset 1, « David dit en lui-même, c'est important ça, il dit en lui-même, les paroles que nous disons en nous-mêmes souvent, est-ce que c'est la parole de Dieu, hein, la parole que tu te dis ce matin au sujet de cette situation. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül, je périrai un jour par la main de Saül. » Il était tellement sûr de ça qu'il va fuir dans le pays ennemi. Il va se rendre chez les Philistins. Il va trouver refuge là-bas. Ce matin, j'aimerais te dire, ne trouve pas refuge chez les Philistins. Dieu, il a un plan de vie pour toi. N'abandonne pas sa main face à cette situation. Fais pas comme David. Reste, garde ta place. Reste fidèle au Seigneur. Je périrai un jour par la main de Saül. Lorsqu'on lit la fin de l'histoire, on voit que Dieu n'a pas changé, il est le même. C'est le Dieu des happy end. C'est pas David qui va mourir par la main de Saül ou par son épée. Non, c'est Saül lui-même qui mourra sur son épée. David, il sera élevé au trône d'Israël. Et tout ce que David avait pensé, eh bien, n'arrivera pas un seul instant. Parce que Dieu avait autre chose pour lui. Voyez-vous, quand, comme cette femme, on parle ainsi, on montre que, quelque part, on n'a plus de ressources, on n'a plus de force, on n'a aucune réserve. Vous savez, c'est très facile, nous les hommes, d'être sans force, d'épuiser nos réserves. À partir du moment où elles sont humaines, eh bien, elles sont facilement épuisables. Ah, ça va vite. Lorsque tu t'appuies sur tes forces, eh bien, attends-toi tôt ou tard à ce qu'elles soient épuisées. D'ailleurs, tout s'épuise ici-bas. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais tout s'épuise. Il n'y a rien qui soit inépuisable. Il fut quelque temps en arrière, les hommes pensaient que les ressources de la terre étaient inépuisables. Ils ont commencé à l'exploiter, la surexploiter, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est d'accord pour dire que la terre, même, elle s'épuise. Tout s'épuise. tout s'épuise, absolument tout s'épuise ici-bas. Mais la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et oui, elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, avant même que tu te lèves de ton lit déjà, Dieu avait renouvelé le compteur de sa grâce à ton endroit. Des fois, on ne s'en aperçoit même pas. On est dans le train-train quotidien chrétien. Dimanche, allez, c'est dimanche, je viens au culte, et puis après. Mais pense un peu à la compassion de Dieu. Pense un peu aux bontés de Dieu qu'il a renouvelées aujourd'hui pour toi. Même si tu es dans tes soucis, même si tu es dans tes difficultés, qui n'a pas de problème? Mais notre regard, je pense que nous, les enfants de Dieu, notre regard ne doit pas être comme le regard de Monsieur Tout-le-Monde ou de Madame Tout-le-Monde. On doit savoir reconnaître, même dans la pire des situations, reconnaître la bonté de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et j'imagine cette femme, alors que, voilà, elle avait, elle-même elle le dit dans ce texte, elle dit, mais c'est mon dernier repas, je vais prendre mon dernier repas et ça sera fini. Donc certainement que le niveau de l'huile dans la cruche et le niveau de la farine dans le pot était vraiment très bas. À chaque fois, elle prenait, ça se renouvelait. Ça m'amène à quand même nous interroger sur cette question. On peut se poser, je pense à juste titre, cette question, pourquoi est-ce que Dieu, puisque c'est le Dieu quand même qui peut tout, on le sait, notre Dieu, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu, et ce n'est pas seulement quelque chose d'écrit dans un livre, chacun d'entre nous avons l'expérience de ces paroles, Dieu, il n'y a rien qui lui soit impossible. Il aurait pu tout à fait permettre que le pot de farine soit plein. Il aurait pu faire tout à fait que le niveau de l'huile dans la cruche soit aussi pleine, afin que cette femme, lorsqu'elle voit cette cruche et ce pot, dise « J'en ai encore pour plusieurs jours, pour plusieurs mois. » Mais Dieu ne voulait pas que cette femme, elle s'appuie sur ce qu'elle voit. Dieu ne voulait pas que cette femme s'appuie sur ce qu'elle a. Dieu voulait qu'elle puisse s'appuyer sur lui. La Bible dit, et c'est Dieu qui parle, il dit, mon juste vivra par la foi. Les gens dans le monde, ils vivent d'un salaire, ils vivent de vacances, c'est bientôt la période d'ailleurs, ils vivent de toutes sortes de choses. Mais les chrétiens, mon frère, ma sœur, nous vivons de la foi. Nous vivons de la foi. Cette femme, tous les matins, elle devait se lever et elle devait regarder le niveau de la cruche, le niveau d'huile, le niveau de la farine dans le pot. Elle disait, mais c'est pas possible. Ça fait un mois. Il nous est dit dans le texte que, alors, il nous est dit, voilà, c'est au verset 15, elle alla et elle fit selon la parole de l'Éternel pendant longtemps. On ne sait pas pendant combien de temps. Peut-être ça a duré des mois, certainement. En tout cas, peut-être même des années, parce que c'est une famine qui va durer pendant plusieurs années. On ne sait pas pendant combien de temps. La Bible dit pendant longtemps. Et elle devait se dire, mais c'est pas possible, ça fait 5 mois, à chaque fois que je viens, eh bien, le niveau, il est bas, mais il est toujours pareil. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Il te dit ce matin aussi, eh bien, il faut que tu vives par la foi. Il faut que tu vives par la foi. Le juste, mon juste, eh bien, vivra par la foi. L'huile était renouvelée, la farine était renouvelée, plus elle en prenait, plus ça se renouvelait, ça se multipliait. Normalement, lorsqu'il y a un bien et qu'il y a plusieurs bénéficiaires de ce bien et qu'il y a une consommation de ce bien, eh bien, normalement, c'est la nature qui nous l'enseigne. Le bien, il diminue. Dans tous les cas, c'est comme ça. Sauf lorsqu'il s'agit de la bonté de Dieu. Sauf lorsqu'il s'agit de la bonté de Dieu. Et tous, autant que nous sommes ce matin, nous pouvons venir puiser à la source de sa bonté, de sa grâce. Eh bien, cette bonté ne diminuera jamais. Ni collectivement, ni individuellement pour chacun d'entre nous. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un ce matin. Toi qui te dis, oh, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. Cette situation, je ne sais plus quoi faire. Eh bien, Dieu veut te faire goûter ses bontés ce matin. Il te rappelle, il dit, mais j'ai encore des réserves de bonté auxquelles tu n'as pas goûté. Tu n'as pas encore tout vu avec moi. Tu n'as pas encore tout vu avec moi. Y a-t-il seulement un homme qui ait tout vu avec Dieu? Il y a un texte dans le livre des Nombres qui m'a toujours marqué. C'est Moïse qui, lorsque Dieu lui dit, donc ils sont dans le désert, le peuple se nourrit de la manne et le peuple veut manger de la viande. Alors Dieu dit, ben écoute, qu'ils se prépare parce qu'ils mangeront de la viande. Et Dieu qui continue, qui parle un peu comme un homme, comme vous, comme moi, il dit, mais ils mangeront de la viande non pas pour un jour, non pas pour 10 jours, non pas pour même 6 mois, non pas pour... Mais ils mangeront... Mais Moïse, il était complètement, il dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Il y a 600 000 hommes de pied dans ce désert, c'est-à-dire sans compter les femmes, sans compter les enfants, et tu dis que ton peuple va manger de la viande pendant tous ces jours, mais tu trouveras où de la viande? Et Dieu qui dit, mais tu verras si ce que je te dis, ça va s'accomplir. Tu verras si ce que je te dis va s'accomplir. Personne n'a jamais fait le tour des bontés du Seigneur. Personne n'a jamais fait le tour de sa puissance. Même Moïse, cet homme qui avait vu de grandes choses, il avait vu la mer Rouge se fendre, il avait vu des miracles, les 10 plaies d'Égypte, eh bien, même là, eh bien, il serait un peu rattrapé par sa nature humaine. Il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Ce matin, j'aimerais t'encourager par ces quelques paroles. Tes ressources sont peut-être épuisées, mais lui, ses ressources ne sont pas épuisées. Amen. Avec le peu de force qui te reste, avec le peu, je ne sais pas moi, de courage, avec le peu d'argent peut-être, avec le peu de foi qui te reste, viens à lui ce matin. Viens à lui ce matin. Fais comme cette femme. Et le Seigneur, il prendra les choses en main. C'est le Dieu des miracles. Alléluia. Ce n'est pas pour faire style qu'on le dise, parce que c'est une réalité. Dieu agit dans la vie de ses enfants. Il le fait réellement. Et si tu te tournes vers lui ce matin, au lieu de la mort que tu attends, ça sera la vie qui va se manifester. Au verset 9, Dieu parle à Élie et il lui dit, « Lève-toi, va à Sarepta. Voilà, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Je ne sais pas pour vous, mais quand on veut aider quelqu'un, on ne l'envoie pas vers une femme veuve. Non seulement elle est veuve, mais surtout elle n'arrive même pas à s'en sortir avec son fils. Élie serait une bouche en plus. Quand on veut aider quelqu'un, on ne l'envoie pas vers quelqu'un qui a plus de problèmes que soi. C'est comme si on vous disait, écoute, va voir le sans domicile du coin là, il va t'aider. Tu sortiras de ta situation, dis, mais c'est pas possible. Moi, si je veux vraiment aider quelqu'un, eh bien, je l'envoie avec quelqu'un qui vraiment a une position peut-être plus élevée, qui a plus de capacité. Mais non, Dieu ici, eh bien, il demande à son serviteur, Élie, d'aller vivre aux dépens de cette femme pendant cette période critique. On peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi donc Dieu peut-il agir ainsi? La première raison, je pense que c'est pour que toute la gloire de son intervention lui revienne. À lui seul. Dieu, il ne partage pas sa gloire avec quoi que ce soit d'autre. Il intervient, mais toute la gloire de son intervention doit lui revenir. Et puis, la deuxième raison que j'ai trouvée, c'est que l'instrument de la délivrance de Dieu peut être souvent quelque chose de dérisoire. L'instrument de la délivrance de Dieu peut être quelque chose de dérisoire. C'est même pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il y a ce merveilleux verset qui nous dit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Donc ça, c'est comme ça, c'est un principe de base du Seigneur. Je pense que c'est lié à la manifestation de sa gloire, afin que la gloire seule lui soit rendue. On le voit, il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu. On connaît la célèbre bataille avec Goliath, cet homme qui impressionnait tant l'armée d'Israël. La Bible dit que David, alors qu'il n'était qu'un adolescent, va venir à bout de cet homme qui faisait trembler tous les généraux de l'armée d'Israël. La Bible dit que quand il sortait, mais en face, il n'y avait personne qui osait se montrer. Sa voix résonnait dans la vallée. Tous les hommes vaillants avait les genoux qui tremblaient. David, il arrive sur le champ de bataille, rien qu'avec une fronde, eh bien, il vient à bout de Goliath et il libère le peuple. C'est ce que Gédéon va vivre aussi. On connaît l'histoire de Gédéon. Gédéon à qui Dieu va demander de réduire encore et de réduire toujours son effectif. Normalement, quand tu vas à la guerre, plus il y a d'hommes, mieux c'est. Mais là, Dieu dit non, je ne veux pas que le peuple pense que c'est lui qui a acquis cette victoire. Et Gédéon ira avec seulement 300 hommes face à une armée importante. Pareil avec Samson, et j'aurais pu multiplier encore les exemples. Il nous a dit qu'un jour, Samson, il a eu la malchance de se retrouver devant des milliers de Philistins. Ah, il n'avait rien, il était tout seul, il ne savait pas quoi faire. Ah, il a regardé un peu autour de lui. Vous savez l'importance du regard. Il regarde un peu autour de lui, qu'est-ce qu'il trouve? Une mâchoire d'âne. Il a vu la mâchoire d'âne, il s'est dit, ça, c'est la délivrance de l'Éternel pour moi. Il a pris la mâchoire, avec la mâchoire, eh bien, il va en tuer 1000. Il va en tuer 1000. Sais-tu reconnaître ce matin le secours de Dieu quand il te parvient? Est-ce que tu sais reconnaître ce matin le secours du Seigneur? Est-ce que tu, un peu comme Samson, es capable de distinguer réellement, de reconnaître un élément peut-être dans ta vie qui est dérisoire, comme étant un élément du secours de Dieu? Et puis la troisième raison, c'est que un plus petit que nous, un plus petit que soi, peut être l'instrument que Dieu utilise pour nous secourir. Même dans l'Église, un plus petit que soi peut être l'instrument du secours de Dieu pour nous délivrer. Élie, et on le sait tous, c'était un prophète. Et quel prophète? Un prophète parmi les prophètes. Le prophète de feu. C'était pas n'importe qui. Mais Élie ne dit pas, Seigneur, tu as vu qui je suis? Tu m'envoies vers cette femme en même temps. En plus, elle est même pas convertie. Tu sais qui je suis quand même. Je suis quand même ton prophète. Le prophète de feu. Celui qui a fait descendre le feu du ciel. Mais non, Élie ne dit pas ça. Ah, il obéit simplement. Il était rempli d'humilité. Tout prophète qu'il était, à ce moment précis, il aura besoin de cette femme. Et l'aide que Dieu avait à lui apporter passera par cette femme. Le Seigneur pouvait l'aider de mille autres façons, mais il va choisir de passer par cette femme. Il fallait une sacrée dose d'humilité. Ah, c'est pas évident des fois. Il fallait être vraiment humble. Et Élie, c'était un homme humble. Lorsque la personne qui doit, comment dire, nous aider, lorsqu'elle est, j'ai envie de dire, au-dessus de nous, ça va. On dit, ah, ça va, c'est l'ancien, c'est le pasteur, c'est bon, il n'y a pas de souci, ça passe. Mais dès que c'est quelqu'un, allez, on va dire, un peu en dessous, bien là, des fois, ça coince. Mais ça aussi, c'est un principe biblique. C'est un principe de Dieu. Ce matin, nous voyons un peu les principes de Dieu lorsqu'il secourt ses enfants. La Bible dit qu'un jour, il y a eu un problème. Il y avait une grande foule devant le Seigneur. Une énorme foule. Et il était tard. Il n'y avait plus rien à manger. On ne savait plus quoi faire. Il n'y avait pas de carrefour à côté, ni de supermarché, ni de quoi que ce soit. Et Jésus appelle ses disciples. Ah, ils étaient là. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques. Ils étaient tous là. Il dit, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un qui dit, mais il y a un petit garçon là-bas qui a 2 pains et 5 poissons. Et on connaît la suite de l'histoire. Le Seigneur va multiplier. Il va se servir comme de ce petit garçon comme d'un instrument de délivrance. Vous voyez, Dieu utilise aussi les plus petits. Peut-être que ce matin, tu dis, oh, moi, je suis tout petit. J'ai qu'une année de conversion. Dieu, mais non. Dieu, il est capable de t'utiliser également. Il est capable de t'utiliser. Voici, j'y ai ordonné à une femme de te nourrir. On se dit, mais qui avait réellement besoin d'être nourri? Était-ce Élie ou était-ce cette femme? Qui avait réellement besoin de l'autre, si je puis ainsi m'exprimer? En réalité, c'était cette femme qui avait besoin d'Élie. Donc il nous est dit, c'est dans les versets avant le texte que nous avons lu, il nous a dit qu'à un moment donné, Élie sera nourri par des corbeaux. Dieu est capable, en plein cœur de la détresse, au milieu d'une famine, il est capable de nourrir ses enfants. Il est capable de nourrir ses enfants, c'est Dieu. Tout le monde mourait de faim sauf Élie. La Bible dit que tous les matins, il y avait des corbeaux qui venaient, qui lui donnaient la viande 2 fois par jour, le pain deux fois par jour, il avait tout ce qu'il fallait. Il n'avait même pas à se bouger. Dieu est capable, dans une famille, de nourrir ses enfants. Avant de dire, j'ai ordonné à cette femme veuve de te nourrir, Dieu dira, mais j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Notre Dieu, c'est le Dieu qui ordonne. C'est le Dieu qui donne des ordres. Ce n'est pas un petit Dieu. Ah, souvent, des fois, avec l'habitude, avec les années de vie chrétienne, on se dit, oh, mais non, Dieu, il reste Dieu. C'est le grand Dieu. Il n'y a personne qui l'a créé. Il n'y a personne qui existait avant lui. Il donne des ordres. Dieu est capable de donner des ordres en faveur de ses enfants. Il donne des ordres même à des gens qui ne le connaissent pas. Cette femme ne le connaissait pas. Il donne des ordres même aux animaux. Les animaux qui ne parlent pas, pareil. Il donne des ordres. Il est capable aussi de donner des ordres pour toi ce matin. Ce Dieu dont je parle, ce n'est pas le Dieu des autres seulement. Ce n'est pas le Dieu de ton voisin. Ce n'est pas le Dieu de ton frère, de ta sœur. C'est ton Dieu. L'Éternel des armées. J'aime bien cette expression dans la Bible, l'Éternel des armées. Mais quelle armée le Seigneur a? Eh bien, il a toutes les armées célestes. Il a les armées terrestres aussi. Tout ce qui existe est à sa disposition pour le bien de ses enfants. C'est cette femme, donc, qui n'arrivait pas à se nourrir convenablement par rapport à Élie. C'est elle qui était victime de la famine. Et quand Élie vient la voir, il lui dit, mais donne-moi à boire. Donne-moi un morceau de pain. En fait, c'était dans l'intention d'aider cette femme. C'était plus dans l'intention d'aider cette femme. Et quelquefois, le Seigneur agit comme ça avec nous. Il agit comme si c'est lui qui avait vraiment besoin de nous, comme si c'est lui qui était dans le besoin. Il demande aussi à ce qu'on l'accueille, comme cette femme a accueilli Élie. Il demande à ce qu'on puisse l'héberger dans notre cœur, dans notre vie, afin de nous sauver. Lorsque le Seigneur, il te dit, mais fais-moi plus de place dans ton cœur. Ce n'est pas pour t'embêter, c'est pour te sauver. La Bible dit qu'un jour, donc Jésus était dans un certain lieu et il y avait une femme. Une femme qui, elle venait puiser souvent de l'eau dans cet endroit. Et alors que Jésus lui dit, mais donne-moi à boire. Cette femme qui se met à discuter, qui dit, mais comment ça se fait? Ah, il y a des gens, il y a des chrétiens comme ça qui discutent tout le temps avec Dieu. Hein, le Seigneur dit quelque chose, ah, on se met à discuter. Ah non, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Non, mais attends, Seigneur, tu ne m'as même pas exaucé. Cette femme, elle discutait. Comment tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine, alors que toi, tu es juif, les femmes n'ont pas le droit de... etc., etc. Et Jésus lui dit une parole, il dit, mais si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. En fait, ce que Jésus essaie de nous expliquer, c'est qu'ici, Jésus lui demande à boire. Mais en fait, c'est parce qu'il voulait, lui, la désaltérer. Il avait vu sa soif. Lorsque le Seigneur nous demande des choses, ce n'est pas pour lui qu'il les demande. C'est pour pouvoir intervenir dans nos vies. Quand tu dis, mais donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie. C'est une parole qui s'adresse aux enfants de Dieu, ça. Donne-moi ton cœur, mon fils. Donne-moi ton cœur, ma fille. Fais-moi un peu plus de place dans ta vie. Ce n'est pas pour nous contraindre. Ce n'est pas pour tuer notre liberté, non. C'est pour te bénir, c'est pour te nourrir, c'est pour prendre soin de toi, c'est pour te faire vivre. Dans notre relation avec le Seigneur, il arrive comme ça des moments où les choses que Dieu nous demande, on a souvent de la peine à les lui donner. Je pense que ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé. On a de la peine à les lui donner, on se dit, mais Seigneur, un peu comme cette femme d'ailleurs. Mais à chaque fois que Dieu te demande quelque chose, dis-toi que c'est pour agir puissamment en ta faveur. Ah, il faut raisonner comme ça. Si Dieu te demande quelque chose, peut-être que Dieu t'a déjà demandé quelque chose, je ne sais pas. Peut-être que Dieu te demande quelque chose en ce moment et tu luttes avec le Seigneur. Ah, je ne sais pas, Seigneur, je fais quoi? Eh bien, donne-lui. Donne-lui parce qu'il est le Seigneur. S'il est le Seigneur de ta vie, ben, Seigneur, ça, c'est ce que ça veut dire, hein, on est d'accord. Il est le Seigneur, il est le Seigneur. Voilà, donc tu lui donnes. Parce que si tu lui donnes, alors tu verras des choses se passer dans ta vie. Et le Seigneur, il va te faire du bien. J'aime bien... la façon dont le Seigneur s'y prend par rapport à cette femme. Vous savez que Dieu, il nous connaît parfaitement, il connaît nos cœurs. Et il sait s'y prendre avec chacun d'entre nous. Avec cette femme, il va y aller progressivement. Donc, Élie ne demande pas tout de suite à manger. Il demande d'abord à boire. Même si, je pense que cette femme, elle a dû réfléchir à deux fois avant de, avant de donner même de l'eau à Élie, parce que c'était quand même une période voilà, de famine, ce n'était pas évident. Ah, elle ne connaissait pas Élie. Pour elle, c'était qu'un étranger, en fait. Elle ne savait pas à qui il était. Elle savait peut-être qu'il faisait partie du peuple d'Israël, hein, puisqu'elle dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Elle répond à Élie comme ça, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je ne sais pas, peut-être que c'est l'accent d'Élie, peut-être que c'est son vestimentaire qui l'a distingué. Elle a dit, mais celui-là, c'est un juif, il est du peuple d'Israël. Donc elle ne savait pas qui elle avait en face d'elle. Elle ne savait pas que c'était le grand prophète d'Israël, le prophète de feu, celui qui avait bravé des rois. Elle ne le savait pas. Si elle avait su, ne serait-ce qu'un seul instant, le CV d'Élie, alors là, elle n'aurait pas hésité à tout lui donner. Nous, on connaît le CV du Seigneur. On sait qui c'est le Seigneur. Vous connaissez le CV du Seigneur ou pas? On sait qu'il a remporté la plus grande victoire qui soit. Pas pour lui, mais pour nous. Le Seigneur, il a vaincu à la croix. On a fait des expériences, des années d'expérience de bienfaits, de grâces, de miracles, de guérisons. On connaît le Seigneur, on connaît son CV. Et quand il nous demande quelque chose, eh bien on s'agrippe à la chose, à ce peu de choses qu'on a. Seigneur, je ne sais pas s'il faut que je... Mais non, si tu connais le Seigneur, tu sais de quoi il est capable, eh bien donne-lui ce qu'il te demande encore une fois. Arrête de t'agripper à ce peu que tu as. En tout cas, cette femme, elle va donner de l'eau à Élie. Ça montre quand même sa générosité de cœur. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse quand même. Je pense que ça nous concerne, nous les croyants. J'aimerais dire que Dieu nous traitera toujours, à un moment donné, comme on traite les autres. Dieu nous traitera tôt ou tard, à un moment donné, comme on traite les autres. La Bible dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est sûr que si cette femme, elle avait été un peu égoïste, un peu comme aujourd'hui, si elle avait fermé sa porte à Élie, si elle avait fermé les yeux sur les besoins d'Élie, Dieu lui aurait fermé la porte de sa grâce. Ah, elle serait morte dans la famine. Elle serait morte. Vous voyez comme quoi, ce qu'on garde souvent, ce n'est pas forcément bénéfique. Quand on garde, il faut donner au Seigneur. C'est quand on donne que le Seigneur nous redonne en mieux. Amen. Souvent, je pense que ça vous est arrivé, on s'est retrouvé dans une situation où on était les seuls à pouvoir aider quelqu'un. On était les seuls, mais on peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? Pourquoi? Eh bien parce que Dieu veut voir si on lui ressemble. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est généreux. Dieu, il a un cœur grand comme ça. La Bible dit qu'il fait du bien, pas seulement aux chrétiens, non, il fait du bien à tout le monde, aux bons comme aux méchants. Il envoie son soleil. Dieu, c'est quelqu'un de généreux. Et Dieu veut voir si on est sensible à la détresse des autres. La Bible dit, partage ton pain avec celui qui a faim et ne te détourne pas de ton semblable. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Il y a tellement de versets comme ça hein, qui nous encouragent à être sensibles à la détresse des autres. Souvent, on se plaint en disant, mais Seigneur, ah, tu n'as rien fait pour moi. Mais quand, voilà... L'autre était dans la même situation, on lui a fermé nos entrailles. Et Dieu, il ne veut pas qu'on soit comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde, ils sont insensibles, ils ont un cœur dur, ils sont méchants, on le sait. Dieu, il veut sensibiliser notre cœur. C'est pour ça qu'il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on aurait le même cœur que les autres. Mais le Saint-Esprit, voilà, il rend notre cœur tendre. Jésus a dit, je suis doux, humble de cœur. Et il faut qu'on soit sensible aussi à la détresse des autres. Parce que les occasions que nous avons d'aider le malheureux, par exemple, sont en fait des occasions pour que Dieu nous bénisse. Si cette femme, elle n'avait pas fait ce geste, imaginez un peu, c'était quand même sa subsistance. Eh bien, elle serait morte de cette famine. Mais heureusement qu'elle agit et en échange, le Seigneur va la bénir. Il va la nourrir. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Je pense qu'on peut appliquer ça à cette femme. En fait, la récompense qu'on a est toujours proportionnelle à qui on reçoit. Si cette femme, en recevant Élie, est restée en vie physiquement, à combien plus forte raison, nous qui avons reçu Jésus, le Fils de Dieu, on héritera la vie éternelle, même si on sait que ce n'est pas une récompense, mais c'est une grâce. On recevra la vie éternelle. Et oui, mon frère, ma sœur, souviens-toi que Jésus t'a donné la vie éternelle. Face à tes soucis, face à tes problèmes, la vie éternelle ou l'espérance du chrétien, ce n'est pas que tout aille bien. Ce n'est pas que le compte en banque soit plein. Ce n'est pas que, je ne sais pas, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de maladie. Ce n'est pas que tous les désirs de nos cœurs soient exaucés. Ce n'est pas ça l'espérance du chrétien. L'espérance du chrétien, c'est qu'un jour, quand ta vie sera finie ici-bas, tu seras au ciel. Voilà. Jésus n'a jamais dit que tu ne tomberais pas malade. Il n'a jamais dit ça. Par contre, il a dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Élie, donc je reviens à cette idée, Élie ne demande pas tout de suite à manger. Il demande d'abord à boire. Il demande à boire à cette femme et je pense qu'en homme de Dieu qu'il était, parce que c'était quand même un homme de Dieu, il a dû, dans sa tête, il a dû « Je vais faire un test. » La première à qui je demanderai de l'eau à boire, qui me donnera de l'eau, je saurai que c'est elle vers qui Dieu m'envoie. On connaît l'histoire du serviteur d'Abraham, hein, qui est allé aussi chercher la femme du fils d'Abraham et qui va faire le même test. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qui soit au-dessus de notre force. Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui soit au-dessus de ta force. Cette femme, eh bien, elle va donner l'eau à Élie. Par contre, quand Élie passe à la phase 2, il lui dit, mais apporte-moi maintenant, je te prie, un morceau de pain. Là, ça coince un peu. Là, ça coince. Elle va lui dire, attends, mais j'ai rien de cuit. J'ai qu'un peu d'huile, un peu de farine. C'était vraiment son dernier repas. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé sur le moment. Elle a juste dit, mais quand même, quelle toupet, quelle effronterie, ou quelle sans-gêne. Non seulement il me demande de l'eau, et non content, il me demande encore la nourriture alors que c'est la famine. Je ne sais pas, peut-être qu'une femme de notre époque aurait répondu ça. Ah, mais celui-là, il ne se gêne pas, hein. Il ne se gêne pas, je lui donne de l'eau, maintenant il veut la manger. Tu lui donnes la main, il veut le bras. Ce n'est pas possible. Mais, donc elle dit, mais je n'ai rien, j'ai qu'un peu d'huile, un peu de farine. Et Élie qui lui dit, mais ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Et là, à ce moment-là, j'imagine cette femme dire, ah, c'est un homme qui comprend. Ah, il m'a compris, il a compris que j'étais seul. Il a compris que j'avais mon fils à nourrir, qu'une bouche en plus, ça ne m'arrangeait pas. Souvent, on aimerait bien que Dieu nous comprenne. Hein, on aimerait bien qu'il aille dans le sens qu'on veut. Mais Dieu, il nous comprend. Dieu, il nous comprend. Mais il nous dit également, mais j'ai des principes aussi. Si tu veux que j'intervienne, j'ai également des principes. Dieu, c'est le Dieu qui intervient par des principes. Et lui, dit, mais ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord un gâteau. Et là, j'en vois qui dit, non, mais il est sans cœur. Il est sans cœur, le pasteur. Il est sans cœur. Mais non, Élie, ce n'était pas quelqu'un de sans cœur. Élie connaissait le principe de Dieu. Il dit, mais fais-moi d'abord, ok, il te reste peut-être juste de la farine, de l'huile pour juste un repas, mais tu vas, avec le peu que tu as, tu vas d'abord faire me préparer un gâteau à moi. Ça, c'est un principe aussi important. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu doit être d'abord servi. Dieu doit être d'abord servi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu doit être d'abord servi. C'est lorsqu'il est servi, comme il faut. La Bible dit, au commencement Dieu. C'est à ce moment-là que, eh bien, le Seigneur, il prend les choses en main. On aime bien que Dieu nous dise, ne crains point. Et qui s'arrête là. Mais dans la Bible, il n'y a pas le ne crains point seulement. On voit ici, Élie va rassurer cette femme. Il va dire, mais ne crains point. Mais il insiste. Ne crains point, rentre chez toi, fais comme tu as dit. Mais seulement, tu me prépareras d'abord à manger.
Dieu aussi, c'est un Dieu qui aime nous rassurer. Le nombre de fois où on a ce « ne crains point » dans la parole de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est rassurant. Il n'aime pas qu'on soit dans la peur, dans des angoisses, dans la crainte. Il n'aime pas ça. Il nous rassure, mais il ne le fera jamais. Écoute bien, il ne te rassurera jamais au détriment de sa parole. Si Dieu t'a dit quelque chose, eh bien, il faut que tu le fasses. Peut-être c'est des exigences qui peuvent nous sembler élevées, mais c'est comme ça que le Seigneur aussi, eh bien, nous enseigne. Ne crains point, et je pense que vous connaissez de la suite, crois seulement, dira Jésus. Ne crains point, crois seulement. Il y a toujours un seulement au ne crains point. Il y a toujours un seulement. C'est le seulement de l'obéissance. Ne crains point, crois seulement. Et Élie qui dira, mais ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord à manger. Ça, c'est le seulement de l'obéissance. Dieu ne passera jamais sur sa parole. Il ne passera jamais sur sa parole. Avant de finir, j'aimerais faire aussi remarquer que Dieu, il ne nous demandera jamais quelque chose au-dessus de notre force. Il ne nous demandera jamais quelque chose au-dessus de notre foi. Lorsqu'Élie demande à cette femme de l'eau, c'était encore dans ses cordes, elle donne de l'eau. Mais dès qu'il demande à manger, là, ça coince. Ah, ce n'était pas évident. Dieu vient à son secours par une parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Élie va prononcer la parole de l'Éternel pour cette femme. Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Voilà, l'Éternel te dit, la farine dans le pot ne manquera point. L'huile dans la cruche ne diminuera point. Elle avait besoin de cette parole. Je suis sûr que tous les matins, lorsqu'elle venait prendre, elle se souvenait de cette parole. Dieu, il ne nous demandera jamais quelque chose qui soit au-dessus de notre force. Si c'est le cas, il va nous donner sa parole pour nous fortifier. On se rappelle de la pêche miraculeuse. La Bible dit qu'un jour, donc Jésus, c'était l'une de ses premières rencontres avec l'apôtre Pierre. Il demande à monter dans la barque, il monte dans la barque. Et à ce moment-là, il nous est dit que Jésus va enseigner. On ne sait pas ce que Jésus a dit, mais c'était la parole de Dieu. Pierre était aussi à côté de Jésus. De l'autre côté, il y avait une foule. Jésus va enseigner. Puis juste après l'enseignement, il va lui dire, mais écoute, maintenant, tu prends la barque et vous avancez en eau profonde. Jetez vos filets. Jamais Pierre n'aurait obéi à cet ordre du Seigneur s'il n'avait pas entendu la parole de Dieu avant. Heureusement qu'il avait entendu la parole de Dieu. Ce matin, tu entends la parole également. La parole également du Seigneur. Tu l'entends ce matin. Parole d'encouragement. Parole pour te fortifier. Parole pour te dire, attends, mais ce n'est pas parce que tu as des problèmes que tu es abandonné. Que tu es sans Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore agi qu'il n'est pas en train de le faire. Attends-toi à lui. Souvent on dit, ah, mais ça prend tellement de temps, je ne sais pas. Lorsqu'on lit ce texte, je vais finir vraiment par là. Il nous est dit, à peine Élie, il arrive. Donc Dieu lui dit, écoute, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, demeure là, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mais à peine il arrive à Sarepta, il est à l'entrée de la ville, c'est au verset 10, je crois. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. La première femme qu'Élie va rencontrer à Sarepta, eh bien, c'était cette femme. Dieu a fait en sorte que les circonstances concourent pour que, voilà, il était, voilà, Dieu il n'est pas là pour perdre du temps. Il n'est pas là pour perdre du temps. Souvent on dit, ah, mais Seigneur, mais non, lorsque les conditions sont réunies, eh bien, il agit. Et c'est ce qu'il va faire avec cette femme. Moi, ça m'a personnellement encouragé de voir que, eh bien, à peine Élie arrive dans la ville, la première personne à qui il adresse la parole, eh bien, c'est cette femme. Dieu avait tout arrangé d'avance. Et Dieu arrangera tout aussi pour toi. Je ne sais pas ce que tu connais, tu traverses comme moment. Je ne sais pas la famine que tu connais. Je ne sais pas le désert que tu traverses. Mais je sais ce que Dieu est capable de faire. Ça, j'en suis persuadé. C'est une expérience personnelle. C'est aussi la parole de Dieu que j'ai voulu partager avec vous ce matin pour vous encourager, pour nous encourager tous ensemble. On va s'incliner simplement. On va prier le Seigneur.